Merci Alex, Jeff, toute l'équipe pour cette première partie de culte. Je suis très, très heureux d'être là. Quelqu'un me faisait la remarque tout à l'heure quand je suis arrivé. T'es au chômage, t'es de retour. Je suis régulièrement en déplacement les derniers week-ends. Mais je me réjouis du coup déjà de vous voir et de voir notre belle communauté, mais aussi de partager le message. Et j'aimerais vous proposer de commencer par un petit voyage quelques semaines en arrière durant le mois de juillet. Je vais vous raconter un petit peu mes vacances. Et vous allez voir, ça va quelque part. Cet été, j'ai eu l'occasion d'être directeur d'une colonie de vacances et de m'occuper d'enfants pendant quelques jours. On a passé des super moments et j'ai redécouvert une passion, notamment que les petits gars ont, que je n'avais pas réalisé à quel point c'était viscéral chez eux, une activité qu'ils aiment beaucoup faire. Alors, il n'a pas neigé, on est en été, mais qu'il pleuve, qu'il fasse la canicule, ils étaient à fond pour participer à ça. Est-ce que vous avez une idée de quelle activité il s'agit ? La bagarre, non, ça aurait pu. Un peu moins dangereux. Le foot, ça aurait pu, mais c'est même pas le foot. C'était encore plus fort que le foot, j'étais surpris. Construire des cabanes. Et tous les jours pendant cette colo, on a ce groupe de petits gars qui s'est retrouvé, ils étaient motivés, ils ont développé leur talent dans différents domaines, jusqu'à obtenir une belle et immense cabane. Et ce matin, je vous propose de parler de cabane. Vous allez vous dire pourquoi. Parce que la Bible en parle, et en particulier, en fait, la Bible ne parle pas tout à fait de cabane, elle parle plutôt de ceci. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça s'appelle une souka. C'est un terme en hébreu qui veut dire à peu près cabane. Et dans la Bible, je vais expliquer un peu après, mais il y a une fête qu'on appelle la fête des cabanes. Ça me dit le pluriel de souka, c'est soukot. Et on va parler donc de cette fête. Alors pourquoi parler de cette fête aujourd'hui ? Parce qu'en fait, pour les personnes de confession juive qui célèbrent encore cette fête, on est en plein dedans, on est le sixième jour, demain c'est le dernier jour. Et en creusant un petit peu au sujet de cette fête, je me suis dit qu'il y avait vraiment de beaux enseignements à tirer pour nos vies aujourd'hui. Alors je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on embarque pour étudier, comprendre ce que cette fête de Soukhot a à nous apprendre. Alors, avant de parler de la fête de Soukhot, j'aimerais parler plus généralement de ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. C'est dans la Bible, dans la première partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien ou le Premier Testament. On voit que Dieu met en place avec son peuple Israël des moments particuliers, notamment dans un livre qui s'appelle Lévitique, au chapitre 23, il y a toute une liste de ces fêtes, de ces rendez-vous que le peuple a avec Dieu. Et je voudrais vous proposer un peu de tester votre culture générale, votre culture biblique à ce sujet. Est-ce que vous sauriez me citer une fête ou plusieurs qui se trouvent dans la Bible ? Pourim. Alors, ça, je vais y venir après. C'est le piège. J'ai entendu ? Pessah. Exactement. Il y a trois fêtes au printemps, trois fêtes en automne. Et la première fête de printemps, c'est la fête de Pessah. On commémore la libération d'Égypte, du peuple d'Israël. C'est la fête des pains sans levain. Et c'est lors de cette fête que Jésus est mort, comme on vient de s'en rappeler. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Shavuot. Je vais en parler après. Tout à fait, c'est dans les fêtes d'automne. Non, pas dans les fêtes de printemps aussi. Mais juste entre Pessah et Shavuot, il y a une autre fête qui est un peu moins connue. Rosh Hashanah, c'est après. Ah, désolé, Claude. Il y a une fête qui s'appelle Chag Abikourim, d'ailleurs j'ai une faute sur le diapo, c'est la fête des premiers fruits, la fête des prémices. Et c'est là où on apportait à Dieu les premiers fruits que la récolte nous donnait. Et ensuite on a Shavuot, donc c'est ce qui est devenu pour nous la Pentecôte, et là c'est la fête de la moisson du blé. Et là on offre les premiers pains qu'on a réalisés avec les fruits qu'on a récoltés. Donc c'est 50 jours après Pessah, et donc c'est pendant, pour faire le lien avec le Nouveau Testament, c'est lors de cette fête qu'il y a le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres dans le livre des Actes. Et les trois fêtes d'automne, donc là effectivement nous avons Rosh Hashanah. Alors à la base c'est pas Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah, et c'est donc le jour de l'acclamation, le jour de la sonnerie. Et c'est donc devenu avec fil du temps dans la tradition le nouvel an, Rosh Hashanah. Et en fait les trois fêtes d'automne, elles se suivent. Après Yom Teruah, Rosh Hashanah, on a une autre fête qui est assez connue en général, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc à l'époque du temple, on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés, C'était le jour où le prêtre, il entrait dans la partie du temple où personne n'entrait habituellement, dans le lieu très saint. Et l'idée, c'est d'avoir le pardon, c'était avant la venue de Jésus et qui va accomplir tout ça. Comment les péchés du peuple étaient couverts pendant un an. Et puis, on arrive à la dernière fête, la fête de Soukhot, que je vais développer un peu plus ce matin. Juste dire, donc on est en pleine semaine de Soukhot, et c'est une fête qui est mentionnée à d'autres endroits dans la Bible, comme les autres, mais particulièrement celle-ci, dans les livres des rois, des chroniques, de Néhémie, d'Esdras, et même dans les prophètes. Mais je n'aurai pas le temps de tout développer, sinon on va éclater l'heure de... Voilà. Juste noter que dans toutes ces fêtes, il y a trois fêtes qui sont ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot et Soukhot. C'est-à-dire que le peuple était appelé à ce moment-là à aller à Jérusalem, donc vous imaginez la ville qui débordait de monde. Voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler aujourd'hui, par exemple. Alors là, c'est moderne, hein, c'est pas tel que c'était au moment de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces trois fêtes, il y a deux fêtes qu'on a christianisées. Pessah, c'est devenu la Pâque, Shavuot, c'est devenu la Pentecôte, et Soukhot, un peu mis de côté, donc c'est aussi l'occasion de remettre cette fête, d'en reparler un petit peu plus. Pour être tout à fait complet, en fait, il y a aussi le sabbat, qui dans Lévitique 23 est considéré comme une fête de l'Éternel. Et le piège, c'est qu'il y a d'autres fêtes, mais qui ne sont pas des fêtes, en tout cas décrétées dans la Torah, elles sont venues plus tard, ce qu'on appelle les fêtes juives, Hanouka ou Purim, qui est en lien avec le livre d'Esther. Ça, c'était un peu le moment culture générale. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans des choses qui peuvent nous concerner directement, en fait, depuis tout à l'heure, je parle du terme « fête ». Mais en fait, en hébreu, quand on regarde la première partie de la Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, c'est un mot précis, et ça ne rend pas très bien au diapo, tant pis, c'est « moadim ». Moadim, ça veut dire des rendez-vous, des temps fixés, une réunion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est Dieu qui a l'initiative de fixer un rendez-vous avec son peuple. Et ce que ça, moi, ce qui m'a interpellé dans ça, c'est que, en fait, on se rend compte que Dieu n'est pas un Dieu lointain qui s'occupe pas de nous, qui est indifférent et qui nous laisse de notre côté. C'est même pas qu'il se laisse chercher par nous, c'est que Dieu nous invite lui-même à le rencontrer. Dieu nous cherche, Dieu nous aime, et il cherche même notre attention. Et pour, comme il sait, je pense qu'on peut être assez dispersé dans nos vies, il nous dit voilà, il y a des rendez-vous marquants. On peut particulièrement prendre du temps avec lui. Je vais venir après, je ne dis pas forcément qu'on doit célébrer toutes les fêtes de l'Ancien Testament, on verra après pourquoi. Mais juste nous dire, c'est une partie du cœur de Dieu de nous appeler à aller dans sa présence. Un jour, quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, « Dieu désire plus notre présence que nous ne désirons la sienne. » Et effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu le message qu'on voit tout au long de la Bible. Cet amour de Dieu qui nous appelle à lui, alors là, en l'occurrence, avec des rendez-vous, des moadim. Et moi, je ne sais pas vous, mais cette perspective-là, elle change quand je veux m'approcher de Dieu, que ce soit dans mon intimité avec lui individuellement ou quand on est là en communauté, dans notre rendez-vous hebdomadaire, de me dire, on n'est pas là à vouloir chercher à atteindre Dieu par nos forces et parce qu'on est des bonnes personnes. En fait, c'est le Dieu qui nous attend et qui dit, en fait, je veux que vous veniez. Et je sais que moi, quand j'essaie d'avoir ce temps, mais mon temps personnel avec Dieu, me rappeler qu'en fait, mon père, il m'attend dans le lieu secret. Je n'ai pas à venir le chercher. Et ça, c'est un premier enseignement global de ces fêtes de l'Éternel. Et j'aimerais juste vous partager peut-être quelques raisons qui pourront nous pousser à creuser ces différentes rendez-vous. Première raison, pourquoi s'intéresser aux fêtes de l'Éternel, c'est que toute l'Écriture est là pour nous enseigner. Ces fêtes, elles sont dans la Bible. Et c'est vrai que des fois, bon, on a peut-être des textes un peu favoris, plus le Nouveau Testament, plus les psaumes, etc. Lévitique, je ne sais pas vous, c'est rarement le livre où je me dis « Ah, je vais lire la Bible, je vais aller dans Lévitique ». Il faut que ce soit dans mon plan de lecture du moment. Et pourtant, Dieu se sert de ces livres-là, Dieu se sert de ces thématiques-là pour nous parler. Une deuxième raison, c'est que Jésus et les premiers disciples, ils pratiquaient, pratiquaient ces fêtes. Il est pratiqué, ça nous permet, en comprenant mieux à la fois l'aspect biblique et même l'aspect des traditions au sujet de ces fêtes, de mieux comprendre certains passages du Nouveau Testament, et juste après, on va en faire une application, en allant dans Jean chapitre 7. Troisième raison, c'est que ces fêtes-là, et d'ailleurs toute la Torah, tout l'Ancien Testament, annoncent Jésus. C'est Colossiens 2, versets 16 et 17, qui nous le dit, c'est que tous ces éléments, c'était l'ombre de Jésus qui vient mettre la lumière sur ces choses. Et en étudiant donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment on retrouve Jésus dans cette fête de Soukhot. Une quatrième raison, c'est qu'on fait un pas aussi, là on parlait beaucoup de la relation avec Dieu, mais aussi vers les autres, et en particulier la communauté juive. Et Paul, notamment l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous enseigne à avoir une forme de reconnaissance vis-à-vis du peuple juif qui a reçu et duquel Dieu a confié et nous a transmis la loi, les prophètes et Jésus le Messie. Alors Soukhot, comment ça se passe? Donc comme je le dis, si vous voulez approfondir un petit peu, vous pouvez aller dans Lévitique chapitre 23, je ne vais pas tout lire et tout commenter, j'ai sélectionné certains éléments qui me semblaient importants. Première chose importante concernant cette fête, c'est qu'elle vient clore l'année liturgique. Dans les synagogues, on lit la Torah en un an, et donc les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et Soukhot, on termine, on arrive à la fin du livre de Deutéronome et on reprend à Genèse. Et on remercie Dieu à cette occasion pour la Torah, pour la parole, pour le fait que Dieu nous ait donné un moyen de le connaître par ce biais-là. C'est aussi la fin des récoltes, et c'est un moment où on peut dire, ça y est, on est riche, on a accumulé des choses grâce à Dieu qui nous a donné des bonnes récoltes, et donc on le remercie. Et enfin, c'est une transition entre l'été et l'hiver. Tout à l'heure, j'ai mentionné les fêtes de printemps et les fêtes d'automne. En réalité, en Israël, c'est moins clair les saisons, il y a plutôt deux grandes saisons, il y a l'été et il y a l'hiver. Et donc c'est vraiment un moment de basculement dans l'année. Alors comment ça se passe, comment ça se passait? C'est que le peuple montait à Jérusalem, donc il y avait effectivement une fête de pèlerinage, et pendant 7 jours plus 1, je vais venir après, ils vivaient dans des cabanes, dans des soukas. Alors il y a plein de règles pour faire une bonne souka, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il y en a une qui me semble intéressante pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut déjà utiliser des feuillages, et il faut notamment qu'on puisse voir le ciel au travers des branches. Il faut qu'on ait cette dimension de « il y a quelque chose au-dessus de moi, et je suis vulnérable aussi vis-à-vis de notamment la pluie ». Et pour l'anecdote, sachez qu'en Israël, là où il y a beaucoup de personnes de confession juive, si vous avez un appartement souka conforme, c'est-à-dire que vous pouvez construire une souka sur votre terrain, c'est plus cher. Voilà, c'était la petite anecdote. Et c'était pourquoi Dieu a demandé au peuple de vivre dans ces cabanes. Et bien ça, on va le lire dans Lévitique chapitre 23. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu, là, fait référence à un moment, on a parlé tout à l'heure de Pessah, donc la fête où on se souvient que Dieu a libéré son peuple par l'intermédiaire de Moïse et l'a conduit vers la terre promise. Et entre-temps, le peuple est passé par le désert. Et l'idée, c'est que Dieu dit, souvenez-vous que vous êtes passé par là. Souvenez-vous cette étape. Et après, on verra ce que ça peut vouloir dire pour nous. Je voudrais juste mentionner quelques traditions qui ont été rajoutées avec le temps, notamment par les rabbins. Ce n'est pas dans la Bible, mais ça va quand même peut-être nous permettre de mieux comprendre l'esprit de cette fête. Une première tradition, c'est que, je vais venir après sur l'Ecclésiaste, une première tradition, c'est qu'on imagine, pendant cette fête, qui dure donc 7 jours plus 1, que chaque jour, on accueille un personnage biblique. Ça s'appelle un ouspizim. On accueille le premier jour Abraham, et on va essayer à chaque fois de s'inspirer de ce personnage et d'apprendre quelque chose de lui. Premier jour, on accueille Abraham. Deuxième jour, Isaac. Troisième jour, Jacob. Quatrième jour, Joseph. Cinquième jour, Moïse. Sixième jour, Aaron. Et septième jour, David. Donc, tous des personnages bibliques. Et on a un huitième jour qui s'est ajouté aussi, qui s'appelle Simchat Torah. Et c'est un jour où on remercie particulièrement Dieu pour le don encore de la Torah, de la parole de Dieu. Et symboliquement, ce jour-là, on accueille le Messie. On attend, il n'est pas encore là pour la communauté juive. Pour nous, c'est Jésus qui était là et qui revient bientôt. Et encore une fois, je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, on lit aussi à Soukhot le livre d'Ecclésiaste. C'est encore une fois pas le livre... Alors ça dépend, l'Ecclésiaste, c'est soit on l'aime beaucoup, ce livre, soit c'est pas trop... Voilà, je vois des gens qui me font signe que c'est pas trop leur tasse de thé. Et pourtant, moi j'aime beaucoup ce livre, et souvent on résume l'Ecclésiaste dans ce verset. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître, dérisoire. Absolument dérisoire, tout est dérisoire. Et c'est vrai que dit comme ça, ça ne fait pas spécialement envie. Mais derrière le mot dérisoire, il y a un mot hébreu, encore une fois, qui est intéressant. C'est le mot evel, revel. Et revel, ça veut dire, donc tout est, quand il dit dérisoire, revel, absolument revel, dit le maître, etc. Ça veut dire temporaire, éphémère, énigmatique. Littéralement, c'est de la vapeur. Et ce livre de l'Ecclésiaste vient nous rappeler que notre vie dans ce monde, elle est temporaire et elle est imprévisible. Et le fait qu'on vive dans une cabane pendant une semaine, ça nous aide à nous rappeler ceci. Que finalement, beaucoup de choses peuvent se passer et que c'est, notre vie, elle est temporaire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, aujourd'hui, de cette fête de Soukhot ? Première chose, c'est que je crois que ça nous rappelle la vertu de la reconnaissance, quand on regarde notamment le passé. Comme je l'ai dit, le peuple, à ce moment-là, il remerciait Dieu pour les récoltes. Et voilà, Dieu a pourvu à nos besoins, Dieu a pris soin de nous. Et donc, c'est une fête particulièrement marquée par la joie. Il y a d'autres fêtes comme le Yom Kippour, c'est plutôt le deuil, le jeûne. Là, c'est une fête de la joie, on remercie Dieu, on est reconnaissant. Et je crois que c'est quelque chose qui se cultive, la reconnaissance. Peut-être notamment en France, alors désolé, mais on est peut-être un peu plus râleur que d'autres endroits. Et le fait de nous rappeler et d'avoir des moments marqués, que ce soit quotidien, hebdomadaire, annuel, où en fait on prend le temps, mais en fait Dieu est bon, il prend soin de nous. Et je pense qu'aussi quand on vit dans une cabane pendant une semaine, quand on revient chez nous, on se dit « Ah, on a quand même de la chance ». Et ça nous rappelle que tout est don de Dieu. Les récoltes, le fait qu'il y ait la pluie, le soleil, les semences, la croissance, le fruit de notre travail, tout nous vient de lui. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à l'oublier. À penser que je mérite, à penser que je devrais peut-être plus. Et en fait, non, tout me vient de Dieu et il est bon. La deuxième chose, c'est quand je regarde mon présent, ça me rappelle à quel point je suis dépendant de lui. Quand on vit dans une cabane pendant une semaine, on se détache, comme je viens de le dire, de notre confort. Et même si le confort, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi, je pense Dieu merci quand on peut avoir du confort, j'ai peur que, peut-être particulièrement pour nous aujourd'hui en Occident, ça devienne une forme d'idole. En tout cas, quelque chose, ce n'est pas la seule, il y a plein de choses, mais quelque chose qui prend la place de Dieu dans nos vies. Et moi le premier. Le fait des fois de rester dans mon confort, de penser que en fait, le sens de ma vie, il s'accomplit dans le fait d'avoir des richesses, un compte en banque bien rempli, une maison, une belle voiture, ça peut m'amener à passer à côté peut-être de ce que Dieu a prévu pour moi. Et sous quoi, c'est le moment où on se rappelle la fragilité de notre condition humaine et qu'en fait, notre seule sécurité, elle se trouve en Dieu. Notre vraie sécurité. Il y a un chant que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Me voici, envoie-moi », peut-être certains le connaissent. Au moment où on chante, on prie « Rends-moi dépendant de toi ». Et c'est en préparant ce message, je me suis rendu compte que, en fait, on est tout le temps dépendant de Dieu. Juste des fois, on peut penser que nous ne le sommes pas. On peut penser qu'on est indépendant. Et je crois que c'est bon aussi de se rappeler que si on peut être reconnaissant parce que Dieu pourvoit nos besoins, on est aussi dépendant de lui aujourd'hui. Et puis, cette fête, elle nous amène à regarder assis à l'avenir. Le passé, la reconnaissance, le présent, la dépendance, et l'avenir, le sens de notre espérance. Comme je disais, cette fête, elle nous amène pour la population juive, le peuple juif, à se rappeler, ok, Dieu nous a libérés d'Égypte, on est passé par le désert et on est arrivé en terre promise. Et souvent, on se permet, et je crois qu'elle est juste une allégorie pour nous, chrétiens, Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché, grâce à Jésus. Il nous amène vers son royaume, la terre promise, et entre-temps, on a ce temps de désert. On a notre vie terrestre en attendant l'avènement de son royaume. Et ça nous rappelle donc que nous ne sommes pas arrivés encore totalement à destination. Merci Seigneur, il nous libère du péché, il nous sauve, il nous permet de le connaître. Mais en fait, le sens de notre espérance, c'est qu'un jour, et tout à l'heure on l'a mentionné aussi pendant la Sainte Cène, un jour le Seigneur reviendra et établira son royaume. Et je pensais tout à l'heure, quand on partageait la Sainte Cène, à une prophétie dans Ésaïe, il est dit, on n'apprendra même plus à faire la guerre. On parlait de la paix. Sous quoi, de ce moment, on se rappelle qu'en fait, on est comme dans des cabanes ici. Et on attend notre vraie maison. Et comme le dit l'Ecclésiaste, que ici-bas, d'une certaine manière, tout est vanité. Et que ce qui compte, c'est le royaume à venir. Et je pense que Paul, j'imagine, avait ça en tête quand il a dit ceci. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée. Une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Je ne sais pas vous, moi ça me donne envie, surtout quand je vois le monde dans lequel on est parfois, cette hâte que le Seigneur Jésus revienne établir son royaume. Je vais simplement avancer, ce sera le dernier point, c'est comment Jésus a vécu la fête de Soukhot et qu'est-ce que ça va faire comme lien avec tout ce qu'on vient de dire. Dans Jean chapitre 7, on ne va pas faire tout le chapitre, je vais sélectionner juste deux petits passages, on voit que Jésus va à la fête des cabanes. Après cela, Jésus continue à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les Juifs cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Et le cependant, il va nous indiquer, Jésus, il va falloir aller à Jérusalem. Il va falloir monter. Et comme le texte nous l'indique, le contexte, c'est que, on veut tuer Jésus parce que Jésus commence à gagner en popularité. Et beaucoup commencent à croire que c'est lui le Messie. Et ça va être un enjeu. Vous imaginez, tout le peuple se réunit et Jésus, ça devient presque le personnage central. Les discussions tournent autour de c'est qui Jésus et est-ce que c'est lui le Messie. Et c'est intéressant, on voit que même ses propres frères ne croient pas en lui. Il le challenge un peu, il dit viens avec tes disciples, viens montrer que tu es le Messie. Un peu comme un défi. Et Jésus va faire un choix surprenant, il va venir incognito, au début en tout cas, à cette fête. Je vous passe les premiers jours et on arrive au dernier jour. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Alors, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est la question du dernier jour, le plus solennel. Alors, je suis allé voir, moi, je ne suis pas non plus un expert, donc je suis allé voir ce que disaient les experts sur ce texte et sur les traditions juives à l'époque, de quel jour il s'agit. Pour moi, la question, c'était est-ce que c'est le septième jour ou est-ce que c'est le huitième, le jour bonus. Je vous lis ce qu'un des commentateurs que j'ai lu me disait. La fête des cabanes durait sept jours, plus un huitième qui était un sabbat, c'est-à-dire un jour où on ne travaille pas. Ce dernier jour, le peuple quittait les tentes où il avait séjourné et se rendait en procession dans le temple où il offrait des sacrifices et accomplissait d'autres cérémonies. C'est au milieu de cette foule d'adorateurs que Jésus se lève et prononce son discours. Et certains commentateurs vont même un peu plus loin. Ils disent, voilà, il y a les sept jours, et le chiffre 7, on sait que dans la Bible, il y a une symbolique particulière, et notamment on parle des six jours de la création et le septième jour de repos. Et le huitième jour, pour certains commentateurs, c'est le jour qui symbolise l'éternité. C'est, voilà, on a vécu dans une tente pendant sept jours, ça c'est notre temps sur Terre. Et le huitième jour, on attend l'éternité qui va commencer, et c'est pour ça que symboliquement, on accueille le Messie. Et c'est dans ce contexte que Jésus va se lever devant toute la foule, tout le peuple qui est réuni là, et d'une certaine manière dire, c'est moi qui accomplis les prophéties messianiques. C'est moi qui vais répondre et instaurer le royaume de Dieu. Et je ne sais pas vous, moi ça me donne des frissons de penser à ça. J'imagine Jésus devant toute la foule dire, en fait, toute cette fête que vous faites depuis des siècles et des siècles, je l'accomplis, c'est moi la réponse à votre recherche. Et puis, il y a une deuxième question, il est question de source, de soif, d'eau. Et là, je vais faire appel à un historien qui s'appelle Flavius Joseph, qui a beaucoup documenté l'époque de Jésus, qui nous aide souvent à mieux comprendre la Bible. Et voilà, il nous parle, lors de la fête de Soukhot, d'une certaine cérémonie qui avait lieu en ce temps-là. C'est ce qu'on appelle la cérémonie du puisage de l'eau, Nikush Amayim. Je vous lis ce qui est écrit. Dans le temple de Jérusalem, il y avait une cérémonie quotidienne pendant Soukhot. Le grand prêtre puisait de l'eau de la Siloé, donc c'était une source, un bassin d'eau proche du temple, et l'eau était ensuite versée sur l'autel du temple pendant la prière. Cela symbolisait la demande de pluie pour la prochaine saison, la bénédiction divine pour la prospérité agricole et un rappel de la dépendance d'Israël à Dieu pour la vie et la subsistance. Cette cérémonie était accompagnée de chants joyeux et de louanges, ce qui en faisait un moment de grande réjouissance pour le peuple, et on pouvait notamment entendre les chants qui disaient « Hosanna, Hosanna », c'est-à-dire « Seigneur, sauve-nous ». Et c'est les chants qui ont accompagné, par exemple, la venue de Jésus à Jérusalem en tant que reconnu comme le Messie. Alors quand on revient à notre texte, Jésus insiste, si quelqu'un a soif, si quelqu'un attend la pluie, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Et là encore, Jésus se présente comme l'accomplissement d'une attente. L'attente de la pluie, l'attente de la bénédiction divine Et je dis, c'est moi la solution. Je ne sais pas vous, moi je prie très peu pour la pluie. Je prie plus pour le soleil, en Lorraine. Mais je prie aussi pour étancher beaucoup de mes soifs. Et je crois que Jésus vient nous montrer aussi que derrière une réalité physique, il y a une réalité spirituelle. On a tous soif de plein de choses. De sécurité, de repos, de paix, d'amour, d'épanouissement personnel. Et là encore, je ne sais pas vous, mais moi souvent je cherche au mauvais endroit. Peut-être je vais plus prier pour qu'il y ait du soleil ou de la pluie que de réaliser qu'en fait Jésus qui vit en moi, c'est la source de mon plein épanouissement. Peut-être quand j'ai soif de sécurité, je me tourne vers le fait que ah, ben, j'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai de l'argent sur mon compte, tout va bien, donc je suis en sécurité. Peut-être quand j'ai soif de repos, je vais mettre une énième série Netflix en pensant que ça va me reposer. Peut-être quand j'ai soif de sens à ma vie, je vais chercher le plaisir. Quand j'ai soif d'amour, je vais me tourner vers des relations toutes sortes, amicales ou autres. Et ce n'est pas que ce sont des mauvaises choses en soi. Hein. Je ne dis pas que Netflix ou être dans le confort, c'est mauvais. Je dis juste que parfois, on cherche vers ce qui est éphémère, vanité, vapeur, en comparaison de ce qui peut être la source continue de vie. Et Jésus nous rappelle lors de cette fête de Soukhot, en fait, c'est moi le seul en mesure de vous désaltérer. Je vous lis ce qu'un commentateur a dit. Jésus étanche la soif de l'âme en offrant le salut à ceux qui ont soif de Dieu et qui viennent à lui. L'eau vive qu'il donne représente le don de l'Esprit qui, à la Pentecôte, descendit sur les disciples sous forme de langue de feu. Mais avant qu'il ne vienne, il fallait que Jésus meure et ressuscite pour réconcilier l'homme avec Dieu, puis qu'il prenne sa place sur le trône de l'univers. Si je devais résumer tout mon propos, je dirais que Soukhot, ça doit nous rappeler ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est résumé en Jésus, le Messie envoyé par Dieu le Père, qui se révèle à nous par le Saint-Esprit. C'est Jésus, le bon berger, qui pourvoit aux récoltes, qui pourvoit à nos besoins, année après année, malgré notre fragilité, et pour ça, on peut lui dire merci. C'est Jésus, le Messie, le roi qui revient bientôt, qui viendra établir son règne, rétablir le monde brisé dans lequel on peut vivre. Mais c'est aussi aujourd'hui déjà Jésus notre Seigneur qui vit en nous par son esprit. Et de nous rappeler que bah, même si on devait vivre sous des cabanes, même si on devait vivre dans une forme de précarité, c'est pas ce que je nous souhaite, mais de dire tout ce qui compte, c'est d'avoir accès à la source de vie et à la présence du roi de l'univers par son esprit en nous. Résumé comme ça, Soukhot, c'est détacher mes yeux de ce qui m'appartient pour me rappeler que l'essentiel, c'est que je lui appartiens. Et je vous propose de prier. Père, je veux te remercier pour Jésus. Merci parce que tu l'as envoyé pour te révéler à nous. Merci parce qu'il est tout pour nous. Il nous suffit en toutes choses. Il pourvoit, tu pourvois, Seigneur Jésus, à nos besoins. Tu es le bon berger. Et en toi, on ne manque de rien et on veut, donne-nous de prendre ces temps pour être reconnaissants pour cela. Merci parce que tu es aussi celui qui vient rétablir ce monde brisé. On entend toutes sortes de nouvelles qui parfois nous attristent, nous accablent, mais merci parce que tu es notre espérance. Et on s'attend à toi pour vraiment nous garder, mais aussi nous permettre de garder les yeux fixés sur ce qui est de l'essentiel, c'est-à-dire la venue de ton règne, comme tu l'as annoncé. Et merci parce que dès aujourd'hui, on a déjà accès à ton royaume, accès à ta présence, accès à ton amour par ton esprit en nous. Et je te demande pardon à titre personnel pour toutes les fois où j'oublie que en fait, c'est toi la source et où je vais chercher ailleurs dans ce qui est vapeur, vanité, les choses essentielles. Je te prie, Père, que tous ensemble, on puisse apprendre de cette fête de Soukhot. Peut-être on ne la pratique pas, mais on veut voir le message derrière et nous rappeler que tu es notre essentiel. Je te prie que dans les décisions, notre façon de vivre, concrètement, on puisse mettre en pratique ces réflexions. Ouais. Merci encore pour qui tu es et pour ton esprit aussi qui vit en nous et qui est une source intarissable de bonheur, de joie, de paix. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen.